berger de Ravenne. Je vais tenter de me retrouver tout de suite la citation que je ne sais pas si vous avez
marqué. Non, alors je vous la recherche très rapidement. La voilà. Quelle? Dans la paracha de Vayetse, c'est au chapitre 29 de la Genèse. Je vous lis le récit. Jacob, arrivant dans un pays qui s'appelle Haran, retenez bien les noms, je les traduirai tout à l'heure, arrive, le verset commence par dire, et Jacob se mit en chemin, chapitre 29, et il alla en direction de la terre des Bnei Kedem. Bnei Kedem, on peut traduire soit par les fils de l'Orient, Kedem, ce qui est à l'Orient, soit par l'antérieur. Kedem, c'est ce qu'il y avait avant. Peut-être qu'il y a analogie, ce qu'il y avait avant est à l'Orient, ce qui est à l'Orient, c'est ce qu'il y avait avant. Mais cette tentative d'orientation, c'est l'orientation vers l'antérieur. Vayarivi, Vehine Be'er Basade. Et voici, il y avait un puits dans le champ. Vehine Sham, et voilà que là-bas, Shlosha Edretzon, il y avait trois troupeaux, Robsi Malea, accroupis sur le puits, qui, Minabe'er Ari, car c'était de ce puits, Yashku Aradarim, que s'abreuvaient les troupeaux, Ve'aeben Gedola, Alpi Aver. Et la pierre était grande sur la bouche du puits. Venesu Shama Kola Adarim. Et se rassemblaient là-bas tous les troupeaux. Entendez bien ce tout. Il fallait que tous les troupeaux soient là pour que le puits donne son eau. Et s'assemblaient là-bas tous les troupeaux, des Galelu et Kaeben. Alors ils faisaient rouler la pierre. Mais Alpi Aver, au-dessus de la bouche du puits, Ve'ishku et Tatson, et ils abreuvaient le troupeau. Ve'ishivu et Kaeben, et ils ramenaient la pierre. Alpi Aver, sur la bouche du puits, Nimkoma, à son endroit. Vayomer Lahem Yaakov. Et Jacob, s'adressant aux bergers de ses troupeaux, leur dit, Achai, mes frères, Mehaïnatem, d'où êtes-vous? Vayomru, et il répondit, Meharan anach, nous sommes de Haran. Vayomer Lahem, il leur dit, Hayedartem et Laban ben Nahor. Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Et vous rappelez que Nahor, c'est aussi le nom du grand-père d'Abraham. Vayomru Yadarnu. Ils répondirent, nous connaissons. Vayomer Lahem, il leur dit, Ashalom lo, y a-t-il la paix avec lui? Vayomru Shalom, et ils répondirent, Shalom, la paix. Vehine Rachel Bito, et voilà que sa fille Rachel, Bahar et Matson, venait avec le troupeau. Il y avait donc tous les troupeaux, mais il y en avait encore un autre qui n'était pas dans tous les troupeaux. C'était le troupeau de Rachel. C'est clair, vous me rappelez, il y avait tous les troupeaux, mais voilà que, à côté, apposé à tous les troupeaux, il y en a un autre, qui est le troupeau de Rachel. Vayomer, et Jacob dit, Hen od ayom gadol. Voici que le jour est encore grand. Loret he asef amikne. Ce n'est pas encore le temps de rassembler les troupeaux. Hishku atzom ulchureu. Faites boire le troupeau et allez les faire paître. Vayomru. Et ils répondirent, Lonuchal. Adasher yasu kol adarim. Nous ne pouvons pas. Avant que tous les troupeaux ne se soient rassemblés. Et même s'il y avait déjà, dans le temps du jour, des troupeaux qui étaient déjà venus s'abreuver au puits. Il faut attendre tous les troupeaux pour que chacun s'abreuve. Et quand ils se rassemblent tous, des galélu et taéven, ils font rouler la pierre, mais alpi aver, de dessus la bouche du puits, veishkinu atzon, alors nous pouvons abreuver les troupeaux. Odenu medaber imam, alors qu'ils parlaient avec eux, de Rachel et Rachel, ba imatzon asher l'aviha, venaient avec le troupeau qui appartenait à son père, kirohai, car elle était bergère. Vayi, et il arriva, Kachera Yaakov et Rachel, lorsque Jacob vit Rachel, bat Laban, fille de Laban, Achimo, frère de sa mère, Betson Laban, et le troupeau de Laban, Achimo, frère de sa mère, Vayi Gash Yaakov, Jacob s'approcha, Vayi tout seul, Vayi Agel et Aeben Merapiaber, il enleva la pierre de dessus le puits, Vayash Ketson Laban, Achimo, et il abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Vaïcha Yaakov le Rachel, et Jacob embrassa Rachel, Vaïset Kolo, Vaïeb. Là, nous avons énormément d'indications que Jacob, à lui tout seul, arrive à réaliser le travail de tous les bergers ensemble. Puisque, mais qu'est-ce qui lui donne cette force? C'est de voir Rachel arriver avec le troupeau de Laban. Mais le troupeau de Laban, c'est le troupeau de Laban, le frère de sa mère, et c'est celui de la famille d'Abraham. Puisque Jacob, arrivant chez Laban, va à l'endroit d'où Abraham était venu. Donc, ce récit est extrêmement dense, vous avez deviné toutes les implications. Ce n'est pas à tous ces niveaux à la fois que nous allons le prendre, mais je reviens à un des versets par rapport à notre problème. Et qui est le verset 4. Lorsque Jacob rencontre les bergers qui se trouvent à Haran, et je relis d'abord le verset comme nous l'avons lu, Vayomer lahem Yaakov, et Jacob leur dit, Achai, mes frères, Mehaïnatem, d'où êtes-vous? Vayomru, et ils dirent, Meharan anachnu, nous sommes de Haran. C'est la lecture, donc, Jacques, la lecture de localisation géographique, la lecture d'identification géographique, géopolitique à la limite même, mais j'essaierai de le lire avec vous à notre niveau, en m'inspirant surtout de l'enseignement du Shlach, qui est un des grands commentateurs de la Bible dans la tradition kabbaliste, et qui, le Shneur Khotabri, et qui d'abord nous fait poser la question suivante, c'est-à-dire nous mène à poser la question que je voudrais poser pour notre sujet. Qu'est-ce qui fait que les païens ont donc renoncé à la relation au Dieu unique créateur, à la relation directe au Dieu unique créateur, et se sont rabattus, si j'ose dire, à ces médiations partielles, chacune son troupeau, et il faudrait qu'elles soient toutes ensemble. Mais c'est utopique qu'elles soient toutes ensemble, que l'universel se fasse. Et là, c'est cette utopie qui ne se fait pas. On attend la fin du jour, et la fin du jour n'arrive pas. Mais entre-temps, il y a un Jacob tout seul qui équivaut à l'universel et qui lui lève la pierre qui cachait le puits. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, nous allons lire ainsi. Non pas comme une question, mes frères, d'où êtes-vous? Mais comme une affirmation, que je vais vous lire en hébreu. D'abord, ce mot de frère est étonnant dans le récit. Voilà que Jacob est envoyé en exil par son frère. C'est la colère d'Ésaü qui l'a fait partir en exil. Alors, il sait qu'est-ce que c'est qu'un faux frère. Mais voilà, il a un seul souci, c'est de chercher ses frères, comme plus tard fera Joseph. Il voit les bergers et il leur dit, mes frères. Il y a tout un programme là. Il veut dire, au fond, notre problème est celui de la reconstruction de la fraternité. Et il leur donne une affirmation, mais haïn a-t-elle. Vous savez qu'en hébreu, le mot de haïn, sous forme interrogative, signifie d'où, mais haïn, d'où, mais sous forme affirmative, signifie du néant, haïn, le néant. Il leur dit, vous venez du néant. Voilà notre problème. Il se réfère au Dieu unique créateur. Nous sommes créés à partir du néant. Et parce qu'il en est ainsi que nous sommes maîtres de créatures, nous avons un problème à résoudre. La compétition des créatures entre elles et la construction de la fraternité. Et notre problème, le problème des bergers, bien voilà ce que l'hébreu leur dit aux autres bergers. Notre problème, le problème des bergers, c'est le problème de la reconstruction de la fraternité parce que nous sommes des créatures. Ils répondent non, mais Haran en a fait. Nous sommes de Haran. Or en hébreu, Haran signifie la colère, l'endroit de la colère, le lieu de la colère, Haron a. Ce que dit le Midrash, Anachnu, Mecharon approche l'Olam. Nous venons de la colère du monde. Je crois qu'il y a là la désignation du mythe originel essentiel à tout mythe païen. Il est arrivé que Dieu, à l'origine, était dans une grande colère. Alors il s'est éloigné du monde et il a délégué sa providence aux médiations intermédiaires. Je crois que là, il y a une analogie et une visée de confrontation certainement avec la lecture chrétienne du péché originel qui désigne une grande colère et différente de la lecture juive pour qui c'était un incident grave, mais un incident, le péché du commencement. J'aurais fait l'occasion de revenir à cela. Bien que nous trouvons des lignes très pathétiques dans la tradition juive de la lecture du péché originel, mais nous n'arrivons jamais à cette espèce de panique, d'effroi. Nous sommes perdus. Il y a une colère à l'origine. Ça, c'est les gens de Haran. Voyez donc quel est le dialogue qui se passe. C'est un dialogue théologique profond. Il arrive là, en trois mots, « Achai ma'inatem ». Notre programme, c'est reconstruire la fraternité parce que nous venons du néant. Ils répondent, non, nous avons un tout autre problème. Dieu était en colère. Et c'est de là que vient notre problème, de la différence entre eux, la relation directe et sans médiation au Dieu unique, et d'autre part, tous les paganismes du péché originel, chaque tradition l'expliquant à sa manière. Mais je crois qu'il y a un fond commun qui nous est enseigné ici par ces quelques versets de la Bible. Alors, on continue dans la deuxième lecture. Colère, colère, Mais il leur dit, mais vous n'avez pas entendu parler de Laban, fils de Nahor, la famille d'Abraham? Il y a d'un oui, nous avons entendu parler de cela. Et il leur dit, à Shalom, n'y a-t-il pas un problème de paix là-bas? Il n'y a pas la paix? Il y a la paix. Et alors, voici que Rachel apparaît. Dit que le vrai problème est le problème de la paix entre les hommes, et non pas de la, comment dit-on déjà en langage théologique, de la rédemption du péché originel, de la colère de Dieu, de l'expiation de la colère de Dieu. Et puis, ah oui, on a entendu parler de la famille d'Abraham, et puis la preuve, c'est que Rachel vient avec le troupeau, et puis Jacob reconnaît Rachel, l'aime, ils vont fonder la société d'Israël, et c'est là que l'histoire d'Israël commence. Là, je crois que là, nous avons une réponse essentielle. Il y a une sensibilité religieuse radicalement différente dans le fond. Chez les païens, le problème religieux est essentiellement un problème de rédemption d'une colère. Alors que, pour Israël, dans la sensibilité hébraïque, c'est la construction de l'invocation à l'unité des valeurs pour que le problème moral soit résolu. Je crois que l'essentiel est dit. Nous aurons probablement possibilité de revenir sur telle ou telle référence, mais je voudrais vous proposer, puisqu'il y a eu peu de temps dans les séances précédentes des soirées, d'en profiter peut-être ce soir à travers cette analyse, comme point de départ, si vous avez des questions sur ce problème. Je crois que là, nous avons un différent, malgré tout, très important et particulier et particularisé, avec la théologie chrétienne qui, d'une certaine manière, à son insu, peut-être, a réintroduit subrepticement la sensibilité païenne du péché originel dans la lecture de la Bible. Et nous avons exactement la même problématique. Mais ce soir, il ne s'agit pas du tout du problème judéo-chrétien, quelles que soient les apparences. Il s'agit du problème de la confrontation entre la sensibilité religieuse biblique, hébraïque, et le sentiment religieux païen. Voilà l'essentiel de l'introduction à ce débat que je voulais vous présenter, et vous avez la parole.
Je crois qu'avec cette conférence très dense, les questions ne vont pas manquer, et je vous passe tout de suite la parole pour éviter des monologues. Oui, monsieur. Vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende.
Oui, mais moi, j'en
parle. On ne vous entend pas ici.
Oui, je voudrais répondre tout de suite. Pouvez-vous illustrer par un exemple? Je crois que j'ai entendu votre question, mais sous forme formelle. Donnez-moi un exemple, et puis je reviendrai sur la question. Si je comprends bien, votre question est sur le projet du séminaire tout entier. Ce n'est donc pas à moi à y répondre, mais je vais essayer de brancher votre question sur mon propos de ce soir. C'est que, il me semble bien, si je me souviens de nos échanges à travers le temps et l'espace entre M. Rowski, qui est le directeur des études, et moi-même, entre Jérusalem et Paris, que nous avons pensé à ceci. Dans les temps très récents, il y a eu une grande polémique qui aussi se référait au régime de l'antisémitisme entre les nouveaux paganismes et le monothéisme hébreu. Bon, ça date, je pense, déjà à cette préoccupation, mais je vois que on pourrait dire que ça se démontre très vite, de 2-3 ans. Et peut-être que nous avons pensé, enfin je m'inclus dans le projet, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'élucider ce que la tradition hébraïque a à dire du sentiment religieux païen. En fait, votre question est très paradoxale, parce que vous me la posez à Paris. C'est-à-dire, alors que vous vivez chez les étrangers, chez les autres, vous me demandez pourquoi on se préoccupe de la spiritualité des autres. Mais c'est votre problème, pas le mien.
J'essaie de devenir un iconoclaste.
Oui, j'entends bien, c'est en train de votre problème. Mais il faut diagnostiquer ce qu'il y a à détruire comme idole. Peut-être.
En attendant que les autres orateurs soient mis frais, je voudrais poser deux questions à Rav Ashkenazi. D'une part, par rapport au problème des paganismes, comment situerais-tu la pensée grecque? Par exemple, le monde des valeurs vu par Platon serait-il une forme de paganisme ou une tentative de dépassement? Ma deuxième question...
Attends, la deuxième question après, parce que... J'aurais peut-être tendance à dire les deux à la fois, mais ce serait une réponse à la bretonne ou à la juive, comme vous voudrez. Parce qu'en fait, d'abord, l'univers spirituel grec est très riche, très différent. Et on peut prendre, si vous voulez, l'exemple de Platon. Il y avait le temps des mythologies, et encore une fois, mythologie pris dans le sens noble, et d'autre part, le temps qui commence avec Socrate comme charnière, Platon comme fin de charnière, Aristote au commencement, le temps de la philosophie. Mais je dirais que c'est peut-être les deux à la fois, qu'il y a une tentative de dépassement de la multiplicité des dieux, mais en même temps, si vous voulez, la laïcisation des divinités en concept d'idéal, en concept d'idéaux. Et que, d'une certaine manière, les idées de Platon épurées se présenteraient à l'hébreu comme une sorte de laïcisation des idoles des mythologies anciennes, mais en langage intelligible de la philosophie, parce que c'était déjà le temps où le langage des paganismes était devenu hermétique, les Grecs eux-mêmes ne comprenant plus leurs mythes anciens, et d'où d'ailleurs l'aventure de la philosophie commence par une déception des mythologies anciennes. Ça, c'est grosso modo un peu la réponse que je ferai. Parce que finalement, l'être unique que tenterait un Platon lui-même d'atteindre au-delà de la multiplicité des idées, finalement c'est l'impersonnel de la divinité, et non pas celui à qui l'hébreu dit « tu, toi » en le désignant par son nom propre. C'est-à-dire, nous basculons du mythe à la philosophie, peut-être dans une tentative de retrouver le monothéisme originel, mais qui reste au niveau d'un déisme philosophique, quelle que soit la ferveur spirituelle dont il est animé, c'est de la culture et non pas de la religion, dans le sens du livre. Et j'en profite, si vous permettez, pour indiquer une analyse que j'ai un peu déjà indiquée l'autre soir, mais la reprendre un peu plus en détail. Si on cherche ce que le Talmud dit de l'apparition de la philosophie, alors il y a là un enseignement extrêmement instructif. Le mot de philosophe, au singulier et au pluriel, est employé quelquefois dans le Talmud, parce que le Talmud nous a laissé le récit de controverse entre sages d'Israël et philosophes. Il y a dans le traité de Shabbat, dans le chapitre Kol Kitvei HaKodesh, une définition du mot philosophe qui nous est donnée par Rashi, première définition. Et Rashi dit philosophe, c'est-à-dire hérétique, min, en hébreu. Tosfot, qui est l'école de Rashi, intervient et note que d'autre part, dans un autre traité, précisément le traité de Avodah Zara, le traité de l'idolâtrie, Rashi, lui, commente dans le traité d'Avodah Zara le mot de philosophe par un tout autre commentaire qui est Chachmé Umotarola, les sages des nations. Il semble-t-il qu'il y a contradiction entre ces deux commentaires de Rashi. Je vais vous proposer la réponse à cette apparence contradiction par rapport à notre sujet tel que nous l'avons reçu de notre maître. Et c'est ceci. Dans le traité Kol Kitvei HaKodesh du Shabbat, le chapitre Kol Kitvei HaKodesh du traité Shabbat, le sujet est le canon biblique, la relation au livre révélé. Le sujet de ce sujet, c'est l'expérience de révélation. Or, ici, le mot de philosophe est commenté par Rashi par rapport au fait de révélation comme celui qui nie la révélation. Et effectivement, la philosophie apparaît un peu dans cette formule au temps où les mythes devenus hermétiques ne sont plus compris, apparaissent comme ces enfantillages enfantins de la mythologie, et le philosophe ne s'appelle plus le sage parce qu'il est déçu de sa sagesse antérieure, il s'appelle en grec l'ami de la sagesse, l'amant de la sagesse, celui qui cherche la sagesse, mais qui se dénomme en philosophe avoue qu'il ne la possède pas, puisqu'il la cherche. Et sa formule serait « Les dieux n'ont jamais parlé, puisqu'on nous dit qu'ils ont dit des bêtises. » Vous comprenez à peu près ce que je veux dire dans cette expérience de déception quant à une sagesse antérieure devenue incomprise. Elle s'était occultée parce qu'elle était passée par le prisme du vocabulaire païen. Et lorsque l'événement de révélation avait cessé, ce n'était plus diagnosticable. De quoi parlait-on? Je vous donne un petit exemple. Il a fallu le temps contemporain pour que les modernes découvrent que les thèmes de la sagesse antique, des mythologies, je reprends ici une formule de Paul Ricoeur, où il dit « le mythe doit la pensée », que derrière ces thèmes incompréhensibles de cette pensée primitive, entre guillemets, bien sûr, je ne fais pas mien ce jugement qualificatif de ces sagesses de l'Antiquité, se cachaient des thèmes de sagesse tout court. Sagesse impure pour l'hébreu, mais sagesse quand même. En vous donnant simplement un exemple, il y a eu le grand temps du théâtre classique, où le XVIIe siècle, puis la Renaissance, a repris ces thèmes de la mythologie grecque devenue le théâtre grec. Et puis, l'âme de la culture occidentale était fascinée par ces thèmes, puisqu'on retourne au théâtre voir et entendre et communier avec des grands thèmes comme par exemple Oedipe. Mais il a fallu attendre le temps contemporain pour comprendre que dans l'histoire d'Oedipe se cachait un thème très important de la sagesse pour grec. Elle n'est pas corollaire, elle n'est pas la sagesse de l'âme hébraïque, mais elle est la sagesse de l'âme grecque. Et c'est très récemment qu'on s'est aperçu que derrière tous ces thèmes, il y avait non pas ce niveau de pensée primitive de l'enfantillage des païens de l'Antiquité, mais une sagesse impure, mais sagesse quand même. Et en particulier, je vous signale l'œuvre de Lévi-Strauss, qui a notablement contribué pour réhabiliter ce que les modernes appellent de façon méprisante la pensée sauvage ou la pensée primitive. Il y avait là des thèmes que les modernes civilisés n'arrivaient plus à comprendre, mais que finalement, les sciences humaines contemporaines, dans lesquelles les sciences humaines contemporaines soupçonnent des thèmes importants. Alors que, dans le traité de l'idolâtrie, Rachid va commenter le mot de philosophe par les sages des nations. L'explication est très simple. Par rapport à la révélation hébraïque, le philosophe sera appelé hérétique. Et il s'agit, d'après le contexte, d'un philosophe juif. Alors que par rapport à la révélation à travers le prisme de l'idolâtrie, le philosophe qui nie cela est appelé sage, le sage des nations. Donc dans cette ambiguïté, il n'y a pas d'ambivalence. Il y a vraiment deux positions différentes. Donc je situerai Platon, par exemple, à travers ta question, à ce moment charnière, où on va essayer de se dégager de l'idolâtrie. Mais on ne s'en dégagera pas. On va se borner à la laïciser. Des idoles, on fera des idées. Dans le sens platonicien, c'est un sens très précis. Dans le temps moderne, c'est peut-être un peu l'idolâtrie des idéaux. Je voudrais préciser cela pour que ce soit, ça ne reste pas obscur. Je crois que tout idéal est valable. L'idéal est animé par la vérité. Mais lorsqu'un idéal partiel s'érige, s'hypertrophie et s'oppose à l'unité des valeurs et la masque, il devient une idole. Et cette problématique de la religiosité hébraïque face à la religiosité païenne est permanente, elle est aussi contemporaine et actuelle. C'est plus Abraham et les idoles, c'est le juif et les idéaux partiels. Bien, voilà donc peut-être un peu pour cette question.
Ma deuxième question, et puis sera peut-être une petite réponse en même temps à la demande d'un intervenant qui s'étonnait lorsqu'on parle de ce sujet qui concerne les islamistes et qui ne nous concerne pas apparemment, est la suivante. Comment peut-on comprendre l'attirance que les paganismes ont toujours eue sur le peuple hébreu tout au long de l'histoire, alors que les Hébreux, avant la fin de la prophétie, étaient en contact d'une part avec la révélation sinaïtique et avec la réalité des rapports avec Dieu, si bien qu'il a fallu que la prophétie, si j'ose dire, passe une grande partie de son temps à lutter contre cette attirance du paganisme.
Bien, je crois que la réponse était déjà dans ta question elle-même. En ce sens que chaque fois qu'apparaît un mythe, bien, le juif, l'hébreu, sait diagnostiquer ce qu'il y a d'étincelles de sainteté, cachées, défigurées, dénaturées, et il y a une familiarité, on reconnaît de quoi il s'agit. Surtout quand ce mythe se présente avec l'aspect de l'universel. Il y a fascination totale des juifs. Vous remarquez que chaque fois qu'un mythe de l'universel est apparu, d'abord il y avait des juifs à l'origine, ils n'étaient pas seuls, mais bien sûr, le juif n'est jamais seul, quoi qu'il est toujours seul, mais c'est un autre registre. Mais ils ont collaboré et surtout ils ont été fascinés, ils se sont perdus en lui. et je crois que nous avons traversé cela le long des siècles. Il y a une sorte de reconnaissance, nous savons de quoi tu parles, et puis finalement de fascination. C'est au fond l'histoire du fond messianisme. Chaque fois, le juif est fasciné, peut-être que c'est ça. Et puis en réalité, c'est pas ça. Ça aurait pu être, ça ressemble, mais ça ne fait que ressembler. Et dans cette fascination, beaucoup d'énergie hébraïque s'est perdue à travers l'histoire des civilisations, mais elle est peut-être fécondée de manière mystérieuse ce qu'a été l'histoire des civilisations. J'en dis pas plus.
Oui, monsieur. Si vous voulez venir au micro, on va prendre la
parole. C'est court, mais je vais parler. Je voudrais savoir, on a opposé religiosité d'Israël, religiosité païenne. Alors, je voudrais savoir. Le juif vit en Occident dans l'époque dite de la modernité, depuis deux siècles. Je voudrais savoir s'il est légitime de faire une lecture de ce rapport Israël-modernité en Occident identique à celle qu'on a fait Israël-paganisme. C'est-à-dire si on peut lire dans la modernité occidentale un paganisme, s'il dit selon quel signe. Parce que finalement, la modernité, c'est le désenchantement du monde. Désenchantement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni Abodazara, ni Minout, mais Apikorsout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de causes extérieures, mais il n'y a que des causes intérieures. Alors, dans ce cas.
Intériorisé, vous dites peut-être.
Oui,
oui. À ce moment-là, je voudrais que vous nous gratifiez d'abord d'un exposé sur ce que vous entendez par modernité. Vous l'avez indiqué en partie. Et oui, si vous voulez, je crois que c'est... Mais en quelques phrases, venez le faire. Et après, j'essaierai de répondre. Okay.
Ce que je voulais dire par modernité...
Vous pouvez le faire au micro.
La modernité est définie, bon, au quartier latin, à la Sorbonne, dans les séminaires de sociologie, philosophie, etc., est définie par un certain nombre de traits, dont l'un des traits qui est le plus pertinent pour la discussion de ce soir est le trait du désenchantement du monde. C'est-à-dire que monde enchanté, monde désenchanté, c'est l'expression de Weber. Dans un monde désenchanté, les phénomènes, ce qui est observable, phénomènes sociaux, phénomènes scientifiques, phénomènes astronomiques, etc., n'ont plus de cause extérieure, comme par exemple la cause divine ou une cause extérieure à eux-mêmes, mais la cause de tous ces phénomènes est à rechercher en eux-mêmes. Donc, par rapport à ce phénomène de désenchantement du monde, je voudrais savoir si...
Très bien. Je crois que je peux vous répondre de cette manière. C'est-à-dire que... Bon. Tout se passe comme si nous serions renvoyés. En retenant notre analyse, je crois qu'elle se réfère surtout à ce qu'on pourrait appeler l'expérience existentialiste, d'ailleurs. Mais nous serions renvoyés à une époque analogue à celle de l'apparition de la philosophie, telle que j'essayais de la décrire tout à l'heure. C'est-à-dire la culture du temps déçue des mythes anciens qui la faisaient vivre, qui lui donnaient sa dimension d'espérance, et perdant l'espérance. Alors, dans la mesure où l'expérience de la modernité fait perdre l'espérance, ne dispose pas d'une espérance à filou, ne serait-ce que de substitut, alors là, il y a des judaïsations dans l'insertion, dans cette modernité-là. Il est évident que, corollairement à ce qui nourrit de terreur la conscience païenne, parce qu'à l'origine il y a la colère, à opposer à cela la conscience hébraïque, la capacité d'espérance. Et au-delà de l'espérance, qui est une conduite, il y a l'objectif de la certitude de la foi. C'est-à-dire, un juif qui doute est en chemin, soit de sortir du doute et d'atteindre l'espérance et la certitude, soit de se déjudaïser. Il y a une indication extrêmement importante. Si le doute est méthodologie, comme dirait Descartes, alors tous les espoirs sont permis. Et là, il y a efficacité de la méthode lorsqu'elle est efficace. Mais si c'est un doute de désespérance, alors c'est là que l'être juif est atteint profondément. Je citerai un autre enseignement de M. Gordin, Zichron Libra. C'est un verset au moment de la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple sortit de l'Égypte et de cette expérience terrible de l'exil, ceux qui avaient, comme disait mon flègue, nous de l'espérance, ceux qui avaient pris ce slogan, nous de l'espérance, arrivent à un moment de doute. Un endroit qui s'appelle Réphidim, et le verset dit... ils ont posé la question suivante. Ayesh Hashem Bekirvenu Imaim. Y a-t-il Hashem en nous, parmi nous, avec nous ou pas? C'est vraiment la mise en question totale. Et alors, le verset qui suit, c'est Vayavo Amalek. Alors Amalek est arrivé. Et vous savez qui est Amalek? C'est la personne, les chrétiens diraient dans l'Antéchrist, dans le langage chrétien, la citra achra, disent les kabbalistes, le côté ténébreux du monde qui fait éruption. C'est le personnage de l'histoire raconté par la Bible qui a pour objectif l'annulation d'Israël. Israël doute, alors on peut l'annuler. Et je voudrais citer l'enseignement de M. Gordin à ce sujet, il nous l'avait dit, bon, ça fait 40 ans quand même. Hein. Nous sommes éternellement jeunes, bien sûr. Il nous avait dit, voilà, l'origine de la critique biblique. Et qu'est-ce que c'est que la critique biblique dans son fond? La Bible est-elle révélée? Ah, bien sûr, avec le postulat que bien sûr que pas. Et alors, il nous avait dit, il ne faut pas oublier que la critique biblique s'est systématisée en Allemagne. Et que là où le doute est apparu, la Bible est-elle révélée, c'est là qu'est apparu Amalek. Bon, c'est une citation qui nous invite à des pensées profondes. Mais c'est un thème important. Voici comment la Kabbalah en parle. On dit Amalek, c'est le doute objectivisé. Le doute, c'est Amalek intériorisé. Et la Kabbalah nous établit tout simplement l'égalité numérique entre le mot Safek, le doute, qui a comme valeur numérique Kouf, ça fait 100, P, ça fait 80, Samer, ça fait 60, donc 100, 240. Et le mot Amalek, qui a la même valeur numérique. Safek égale Amalek. Dire, je crois qu'effectivement, l'identité juive est en danger de paganisation, de déperdition. Si nous retenons votre définition de la modernité, quelle est cette expérience de désenchantement, donc de désespérance? Et elle est authentique, reprenons Rashi, lorsqu'elle se désenchante des illusions, mais elle devient néfaste et dévastatrice lorsqu'elle se désenchante de l'espérance. Alors, ce serait le problème de la mise en doute. Et vous savez à quel niveau sont notre question, mais qui se grève sur notre problème. Le juif est atteint de cette inquiétude de la mise en doute de soi et à quel point elle est néfaste et dévastatrice. Dès que le juif commence à douter de lui, alors Amalek surgit, il n'y a qu'à lire les jours.
D'autres questions? J'essaierai d'être clair. Je veux dire que, dans un premier temps, je voudrais dire d'abord que je me situe à partir d'une position profane, que je crois être athée. Parce que je considère quand même que le monothéisme est un pas en avant dans le développement de la conscience et de la civilisation. Bon, monsieur Prince vous a posé tout à l'heure la question de savoir si, par exemple, effectivement, il y avait quelque chose de positif dans la civilisation humaine, qui est aussi quand même un certain paganisme. Alors, je crois que peut-être il s'est référé à une discussion qui a eu lieu lundi, au cours de laquelle l'exposant a pu dire qu'à l'époque prophétique, les prophètes ont valorisé la dimension esthétique qu'il pouvait y avoir chez les païens qui leur étaient contemporains. Et cet aspect, je crois, nous interpelle, parce que effectivement, il y a un certain esthétisme, à l'heure qu'il est, qui nous vient peut-être effectivement de ce 19e siècle, de ce qui est appelé la beauté du mal, les fleurs du mal. Et ceci, à mon avis, est quelque chose d'assez important, et ceci, je crois, tout à fait le propos de monsieur Askenazy. C'est-à-dire que dans l'esthétique, je ne me limite pas au problème de l'esthétique, qui n'est qu'un aspect de la question, bien entendu, mais je crois qu'il est intéressant, dans la beauté du mal de l'esthétique contemporaine, qui a une certaine signification païenne, il y a l'idée que le symbole est quelque chose d'essentiel, ce qui est appelé de façon contemporaine le signifiant est quelque chose d'essentiel. Alors là, par exemple, je vous mets en contradiction, dans le sens où, pour le païen, il me semble, l'idole est un non-soi. Je ne crois pas que, effectivement, le propre de la sensibilité païenne, ce soit de rechercher un sens. Alors, par exemple, dans la civilisation grecque, il n'y a pas du tout cette problématique, puisque cette civilisation grecque postule une unité entre, par exemple, le bien le bien par exemple, et le beau. Or, cette unité entre le bien et le beau est, à mon avis, tout à fait contraire à l'esthétique païenne. Au point que se pose alors là un nouveau problème, qui est le problème de la médiation. Et M. Askenazy nous a dit, de façon paradoxale, nous semble-t-il, donc d'une part, un des aspects de la sensibilité païenne était l'attachement au partiel, et l'attachement à un aspect au dépend de la totalité. Voyons par exemple, dans la civilisation grecque, il n'y a pas cela. Il n'y a pas ça pourquoi? Parce que dans cette civilisation grecque, il y a la dimension. Il y a la dimension de la médiation. Et si nous prenons pour exemple certaines philosophies universalistes, par exemple celle de Hegel, la dimension de la médiation est capitale, au point que certains courants qui l'ont violemment contesté, des courants qu'on pourrait rapprocher effectivement d'un certain paganisme, par exemple le courant structuraliste, par exemple le nouveau roman, mais toute une partie d'une certaine culture contemporaine qui a dit de Hegel c'était le chien crevé de l'université, en tout cas, qui se rapproche du paganisme, ne serait-ce que par son rejet de l'humanisme traditionnel, eh bien, sont des courants qui vont rejeter et la notion de médiation, et la notion de totalité. Il ne faut pas perdre de vue cela, que rejeter la notion de médiation nous ramène effectivement peut-être à rejeter celle de totalité. Alors, j'arrive à ma question qui est la suivante.
Mais avant de dire la suivante, dites la première.
Alors, la question, est-ce que un système philosophique qui, par exemple, privilégie la notion de totalité, et il y a dans la culture contemporaine, par exemple, la culture marxiste, par exemple, je citerai Lukács, qui a pu, par exemple, à mon sens, introduire une certaine pensée juive dans le marxisme, Lukács qui a dit que, par exemple, la particularité du marxisme, c'était son rapport à la totalité, eh bien, n'est-ce pas là quelque chose qui se rapprochait, hein, de par son universalisme, à un certain monothéisme? Car je ne crois pas que le monothéisme est quelque chose qui est un départ, je crois au contraire que c'est quelque chose qui correspond à un développement relativement avancé de la conscience et de la société, et que, de façon spontanée, les gens ne sont pas monothéistes contre son croyant.
Bien, écoutez, monsieur, vous avez dit beaucoup de choses, ce qui fait que je n'aurais absolument pas la possibilité de me rattacher à tous les éléments de votre intervention. D'autant plus qu'il m'a semblé que dans des paragraphes différents, votre problématique était un peu différente. Mais enfin, je vais essayer malgré tout de me relier à ce qui concerne directement notre propos. En commençant par ce que vous avez dit à la fin, mais je parlais surtout de l'esthétique esthétique. Je crois que vous avez très bien posé la question que traite M. Levinas dans sa grande thèse, totalité et infini. Je crois que c'est là que vous aurez tous les éléments de votre quête présente. Pour les Hébreux, la totalité n'est pas l'infini. La totalité n'est pas l'universel. C'est aussi différent que cosmopolitisme et universel, et l'universalisme. La totalité, c'est une addition de chaque particularité. L'infini transcende et dépasse absolument cette totalité. Mais je ne pourrais pas dire mieux que M. Levinas l'a fait dans une thèse très importante, je vous invite à la lire, et qui s'appelle « Totalité et infini ». Simplement, il remarque, concernant la médiation universelle, précisément l'hébreu refuse toute médiation, surtout celle qui se fait prendre pour l'universel. Reprenons un formule en hébreu. « Hachem hu elokim » Mais la totalité des Elohim ne sera jamais une médiation pour Hachem. Si vous voulez, d'une certaine manière, je prends un langage imagé. Entre Hachem, Mekora de Klala, comme le Rav a dit en araméen, la source de tout, c'est pas le tout, la source du tout est infiniment transcendante au tout. Eh bien, entre Hachem et nous, qui sommes donnés dans la multiplicité du monde, il y a ces hiérarchies des Elohim. Que les païens en divinité, voilà, bien. Mais c'est, si vous voulez, entre lui et nous que ces hiérarchies apparaissent. Mais entre nous et lui, il n'y a rien. C'est ça la sensibilité, voilà. Et
la médiation.
Pardon ?
La
c'est un emploi du moment de la source, je voudrais dire le moyen, est-ce que moi, je ne sais pas la meilleure forme dans la sortie. Et il faudrait avoir une idolâtrie du livre de la Torah qui a été satisfaite. J'essaierai de se formuler sans doute par le sable par écrit. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que ça a été mis par écrit. Il y a donc une idolâtrie de l'excellence du livre en tant que telle, qui est peut-être une des pires idolâtries intérieures au monde. C'est une parole qui a été mise par écrit. Mais c'est quelqu'un qui parle la parole. Et nous ne sommes pas un peuple de libraires, d'une certaine manière. Quoique le libraire ait une fonction très importante. Dans le Talmud, il y a un certain nombre de conditions à laquelle une ville doit répondre. Pour les droits de la vie, il faut en sorte qu'un libraire.
Mais moi, il me semble que la médiation se fossilise. La médiation ouvre à une autre médiation.
C'est ça.
Sinon, c'est du paganisme.
Si vous voulez,
je pense que la médiation.
Mais voilà ce que l'hébreu vous répondrait. C'est un peu de suffisance de parler au nom de l'hébreu à travers l'espace et le temps qu'a dans l'histoire, mais ce que l'hébreu vous répondrait, c'est que toute médiation se fossilise. Toute médiation s'idolâtre. Je préfère la distinction entre signifiant et idole. Signifiant, c'est le sens de la parole, mais c'est beaucoup plus familier que le symbole visualisé, que le symbole du fini, enfermé dans le fini. Pardon ?
C'est pas vous dire ça.
Mais c'est ce que je vous fais dire en hébreu. Mais ça, je m'entendrai. Et donc, les choses sont plus graves que je le soupçonnais. Si le signifiant lui-même devient idole, je crois que c'est cela, au fond, un peu paradoxal aussi, ce que le structuralisme aurait de plus païen que l'hélénisme lui-même. Alors nous sommes d'accord. Très bien, nous nous retrouvons en hébreu. Et simplement, je dirais ceci à propos de l'esthétique, et il me semble que vous avez cité M. Dufour, qui citait ce verset. Pardon ? Ah, oui, je n'étais pas. Mais M. Dufour va, mardi soir, citer dans son introduction à l'école de M. Lepsky, un verset que je voudrais reprendre, lorsqu'il parle de Yaval, la beauté de Japheth, qui séjournera dans les temples de Shem. Notre problème est là, c'est qu'il y a une sorte de, je ne vais pas dire complaisance, c'est un mot négatif, une sorte d'attachement à la beauté de Yaval, au point que la prophétie de Noir lui donne cette destination de résider un jour dans les temples de Shem. Yaval, c'est la Grèce. Le mot en langage occidental traduit Yaval, c'est Yoni. Yaval, Yoni. Et c'est le mot que nous avons gardé en hébreu pour dire. Par exemple, le Talmud, dans l'enseignement suivant, on a autorisé à traduire les livres de la Révélation en langue étrangère qu'en lecteur. C'est-à-dire, premièrement, toute traduction était interdite. Mais si déjà il devient nécessaire de donner une structure de traduction, on avait autorisé qu'en grec. Il s'est rattaché au ce verset que je vous cite, « Yaf Elohim Negefet, Veishkol Be'ale Shem ». C'est-à-dire, tu as fait une belle chose pour Japheth, et Japheth, ça veut dire l'homme de la beauté, l'homme de l'esthétique. Peut-être que, en état civil, Japheth s'appellerait en français Monsieur le Beau.